Bonsoir et le décompte continue. Un mois déjà depuis que le Covid-19 a été officiellement déclaré en République démocratique du Congo. 5 provinces sont à ce jour touchées sur les 26 que compte le pays. Kinshasa reste la province la plus touchée du pays avec plus d'une centaine de cas. Les deux Kivu, l'Ituri et le Kwilu sont les 4 autres provinces concernées par le Covid-19. En tout, la RDC comptait en milieu de semaine 207 malades de coronavirus, 20 décès et 10 guéris. Et puis, ce coup de tonnerre qui touche la classe politique congolaise et surtout l'entourage du président Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et son directeur de cabinet depuis mercredi soir, arrêté à la prison centrale de Kinshasa. Il est placé sous mandat d'arrêt provisoire après avoir été entendu à l'office du procureur général près la cour d'appel de Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du chef de l'État. Vital Kamerhe pourrait écoper de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Pour évoquer toutes ces actualités, nous serons avec Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News hebdomadaire paraissant à Kinshasa. Joël Kadé Ndanga, bonsoir.
Bonsoir chers confrères, bonsoir aux auditeurs de la radio de la paix.
Mais aussi Christian Bossembe, bonsoir.
Salut, bonsoir à tous les auditeurs de la fréquence de la paix, principalement à ceux qui vivent en Bataka.
Promoteur de la chaîne Congo Buzz Télévision, également responsable du magazine congobuzz.net. Et enfin Alain Samuel Chibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Alain Samuel Chibata, bonsoir.
Bonsoir Radio Okapi, bonsoir à tous les amis qui suivent sur l'étendue de la République du Congo.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission. Et pour alimenter nos débats de tout à l'heure, voici la revue de presse.
Bonsoir, Vital Kamerhe, directeur des cabinets du chef de l'État, a été conduit à la prison centrale de Makiala sous mandat d'arrêt provisoire. C'est le sujet principal que les médias congolais abordent. La question de coronavirus occupe aussi quelques lignes dans la presse congolaise. La détention de Kamerhe serait-elle le réveil de la justice congolaise, s'interroge CapSud.net. Et même si cela n'aboutissait pas à l'emprisonnement du DIRCA du chef de l'État, les Congolais trouvent que cette décision préventive est un signal fort pour l'indépendance et la justice dans notre pays, ajoute le portail pour qui la mise en détention du tout-puissant VK redonne confiance à la justice congolaise longtemps vilipendée. Le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, Maître Georges Kapiamba, salue aussi la mise en détention provisoire de Vital Kamerhe. Il pense que l'arrestation du directeur des cabinets du chef de l'État est un aboutissement d'une longue lutte menée par des Congolais pour la fin de l'impunité des hauts responsables, renseigne CAS-CA. Mais pour Maître Paulin Tubangubonga, cadre de l'UNC au Kasaï oriental, ce mandat est politisé et entaché de plusieurs zones d'ombre, relais de pêche.cd. À Bukavu, les sympathisants de l'UNC Bukavu sont descendus dans la rue quelques heures après avoir appris l'arrestation de leur leader Vital Kamerhe pour dénoncer l'humiliation de leur président national, rapporte Congoprofond.net. De l'avis de Forum des As, la plateforme CAP pour le changement, cache en sigle, est bel et bien au bord de l'implosion. Le fait que Félix Tshisekedi se soit décidé à convoquer une réunion de la plateforme le jour même de l'audition de son directeur de cabinet n'est pas anodin, notent les analystes politiques. Même si les décisions de justice ne relèvent pas de l'exécutif, séparation de pouvoir oblige, la détention préventive du premier collaborateur et partenaire politique du chef de l'État ne peut que sonner comme les débuts, sinon d'une rupture, du moins d'une crise de confiance au sein de CAJ, décortique le journal. Coronavirus, on en parle encore. L'INARBE indique, en plus de Kinshasa, les provinces du pays déjà affectées restent le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Kwilu. Parmi les tâches que l'équipe des ripostes devrait réaliser en cette période de confinement de la Gombe figurent les suivis des cas testés et leurs contacts. Ce travail est en cours depuis mercredi. Les équipes font pour cela du porte-à-porte, mais cela ne se fait pas sans difficulté. C'est ce qu'explique le docteur Justus Sio, chargé des opérations de la riposte à la Coordination générale des ripostes contre le coronavirus, dans une interview à retrouver sur www.radiookapi.net.
Merci Kéline Kouté, Joël Kadé Ndanga, éditeur du journal Impact News hebdomadaire paraissant à Kinshasa. À ce stade de notre émission, quelle autre actualité non évoquée jusqu'ici aimeriez-vous partager avec nous?
Bon, c'est il n'y a pas d'actualité, surtout que les deux grands sujets que vous avez indiqués ce soir sont très importants, mais il y a lieu de saluer l'acte déjà posé par la société Barrick Gold Corporation, qui a sa succursale ici, Kibali, qui a remis $1,500,000 au gouvernement congolais. Le directeur général, M. Cyril Mutombo, est allé l'annoncer au Premier ministre la semaine passée, le vendredi. Et cet argent sera remis à terme de matériel de protection pour s'engager contre la lutte contre COVID-19. Nous en appelons aux autres opérateurs économiques, nous en appelons à tous ceux que l'on lance dans des chansons, à tous les richissimes de la RDC, de suivre cet exemple pour répondre à l'appel du chef de l'État relatif à la solidarité nationale. Il ne faudrait pas qu'on attende le pic de la maladie pour intervenir. C'est à ce moment que nous devrions tous, chacun, mettre la main à la pâte, de telle sorte que nous puissions nous engager contre cette pandémie.
Tout à fait, Joël Kadendanga. Et pourquoi pas chaque Congolais de mettre ne fût-ce qu'un dollar? Ça ferait au moins 80 millions de dollars qui pourraient servir à quelque chose, n'est-ce pas?
Tout à fait. Si toutes les entreprises minières que nous avons pouvait contribuer avec 1,5 million, tel que l'a fait Kibali Gold Mining. Si tout Congolais, vous comme vous êtes là, moi et tous les autres Congolais, journalistes, professeurs d'université, si chacun pouvait contribuer avec un dollar, au lieu d'attendre que le gouvernement puisse assumer, nous connaissons les limites qu'a le gouvernement de la RDC aujourd'hui en termes du budget. Donc je crois qu'il est temps que tous nous puissions nous engager contre cette maladie. Et j'en appelle également à nos frères et sœurs qui continuent encore à s'abriter, comme hier à l'audience de Caméré. Donc les gens ne respectent pas les mesures, les gestes barrières, les mesures hygiéniques qui ont été dictées par l'OMS et relayées par les autorités congolaises. J'ai comme l'impression que les gens sont encore dans une inconscience qui risque de faire exploser la République démocratique du Congo à milliers de morts.
Message entendu. Christian Bossembe, promoteur de la chaîne Congo Buzz Télévision, également responsable du magazine congobuzz.net. Votre commentaire libre avant nos débats de tout à l'heure.
Alors, merci beaucoup à vous, Dona Madimba. Moi, je pensais plutôt à copier, pourquoi pas, ce qui se passe aujourd'hui au Canada, mais aussi aux États-Unis. Ça veut dire que les brasseries, donc nos sociétés brassicoles, devraient en principe produire des gels, un peu comme on le voit au Canada, mais aussi comme on a demandé au General Motors de fabriquer maintenant des respirateurs. Je me posais la question, pourquoi pas Chani Metal? Pourquoi on ne réhabiliterait pas Chani Metal de façon urgente afin que cette vieille usine puisse produire, ce vieux chantier puisse produire autant d'appareils respiratoires? Parce qu'il faut rappeler que l'héritage de Kabila est tellement lourd, il est tellement pesant que vous laissez un pays de plus de 100 millions d'habitants, mais avec moins de 100 respiratoires, alors à mon avis, c'est un génocide. Donc, je pense ici qu'on devrait avoir des mesures assez drastiques pour faire évoluer les choses. Pourquoi ne pas faire comme le Gabon? Pourquoi ne pas faire comme les autres pays où l'on prélève directement dans les salaires de toutes les autorités 20% ou bien 25%, ça dépend, peut-être 15%, ça va être mieux. Figurez-vous que tous les salaires de nos ministres, tous les émoluments de nos députés et tout le reste, toutes les autorités de la République, on prélèverait 20% dans tous leurs biens parce qu'ils se sentent gagnent trop, ils gagnent un peu plus. Vous voyez que ça peut toujours faire avancer beaucoup de choses. Vous avez vu l'exemple combien patriotique de ce jeune militaire sous-officier qui a accepté de laisser sa petite rémunération pour l'intérêt de tout le monde. Je pense que si on fait la même chose, ça pourrait être bien. Pourquoi pas aux institutions comme le Sénat ou l'Assemblée nationale, les deux présidents pouvaient accepter de laisser leur émolument pour dire que bon, le mois de mai, le mois de mars, le mois de juin, nous laissons nos émoluments pour cette pandémie de corona. Mais aussi, pourquoi ne pas penser à un sursaut patriotique? Le problème avec nous au Congo, c'est que les gens veulent bien donner de l'argent, mais c'est la traçabilité qui pose un problème. Les gens au Congo ont une mentalité comme quoi ils veulent être responsables, ils veulent être souverains de tout, mais responsables de rien. Ça veut dire qu'ils veulent avoir de l'argent, mais ils ne veulent pas être contrôlés. Et quand on veut les contrôler, c'est de l'acharnement. S'ils sont présidents de partis politiques, eh bien, les palais de justice sont assiégés par les partis politiques parce qu'ils pensent que c'est de l'acharnement. Donc, même la caisse, elle est en train de souffrir parce que les gens se disent, mais vaut mieux donner à Caritas que donner au gouvernement parce que celui qui va gérer le compte, il ne voudra jamais être contrôlé, il ne voudra jamais être audité. Voilà un peu, à mon avis, ce qu'on pouvait faire pour faire évoluer les choses dans la Madimba.
Et voilà Christian Bossembe qui ajoute un grain de sel dans cette floraison d'idées qu'il faut jeter en l'air, quitte à ce que le gouvernement peut-être les récupère pour les mettre en pratique. Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. En avant-goût, certains ont énoncé des idées. À votre niveau, quel est votre avant-goût informationnel dans cette émission?
Merci, chers confrères. Je suis en train de visiter les confrères qui ont eu le temps de donner les points de vue qui sont très intéressants. À mon niveau, je voudrais aussi parler de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Vous savez, par moment, nous sommes un peu fatigués de parler de ça, mais on ne se fatigue pas parce que c'est notre devoir en tant que tel. Ici, dans la province du Haut-Katanga, particulièrement le Lubumbashi, la population vit un calvaire. Je pense que tout le jour, il y a toujours les bandits armés qui sont en train d'opérer, pas plus tard qu'avant-hier, la nuit de mercredi à hier jeudi, nous avons connu des cas de vol un peu partout dans toutes les communes. Je commence par la commune de Kampemba du côté Kilobé-Lobé où on a entendu le coup de balle. Hein. Il y a eu affrontement entre les éléments de la force de la police nationale congolaise ainsi que les bandits à main armée. Je me disais que on avait affaire à deux gens qui sont bien armés pour ne pas voler, piller, violer même nos sœurs, nos mamans. C'est une petite... Moi, je me demande, qu'est-ce que monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, monsieur Jacques Kaboula Kato, fait parce que on en a marre. C'est une situation qui est régulière à Lubumbashi. Vous allez entendre, la même nuit, on vole pendant... Il y a les voleurs qui entrent, je ne sais pas, qui visitent 50 maisons. La même nuit, dans une même ville, c'est vraiment inquiétant, monsieur le journaliste confrère. Mais je voudrais également parler de l'état de nos routes, hein, ici à Lubumbashi. À la période de Moïse Katumbi-Tchapwe, on avait débloqué beaucoup de fonds pour la réhabilitation de routes ici à Lubumbashi, mais malheureusement, je me rends compte que c'était les routes à usage unique. À moins de 5 ans, si vous arrivez à Lubumbashi, vous allez vous inquiéter. Nous en appelons également à la conscience de nos autorités. Je me demande s'ils n'ont pas les techniciens ou les ingénieurs avant d'amorcer les travaux de réhabilitation de routes. Et voilà, un peu brièvement, les deux nouvelles que j'allais partager avec les Congolais qui nous suivent.
Merci Alain Samuel Tshibata. Vous retrouverez la parole tout à l'heure, puisque nos débats commencent. Coronavirus en République démocratique du Congo, un mois déjà depuis que cette pandémie a officiellement été déclarée dans le pays. 5 provinces sont à ce jour touchées sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Kinshasa reste la province la plus touchée du pays avec plus d'une centaine de cas. Les deux Kivu, l'Ituri et le Kwilu sont les 4 autres provinces concernées par le Covid-19. En tout cas, la RDC comptait en milieu de semaine 207 malades de coronavirus, 20 décès et 10 guéris. Entre-temps, la commune de la Gombe, abritant les institutions du pays et les sièges d'entreprises, est confinée depuis lundi pour des opérations anti-Covid-19, comme nous explique ici le chargé des opérations de la riposte à la coordination générale contre le coronavirus en RDC, Dr Justus Nsio, est au téléphone de Babel Mpongo.
Les équipes sont en train d'aller porte à porte, voir et revoir les familles et les malades qui étaient identifiés avant, voir et revoir aussi les personnes qui ont été en contact avec les malades pour évaluer leur état sanitaire et leur apporter du secours ou de solutions aux problèmes qui se posent. Le travail a déjà commencé.
Quand, par exemple, vos équipes arrivent dans une parcelle, qu'est-ce qui se passe?
Nous expliquons d'abord aux personnes qui sont dans la parcelle, nous les sensibilisons. S'il y a eu des personnes qui ont été en contact avec des cas confirmés et qui ne s'étaient pas identifiés avant avec leur accord, ils vont se présenter, ils vont dire voilà, nous avons été en contact, voici ce qu'on a eu. Ils décrivent lesquels cas avec qui ils étaient en contact. Avec ça, on va les retracer comme contact, on va regarder la période à laquelle la personne était en contact avec les cas confirmés. Si cela nécessite un suivi encore, on va faire un suivi.
Joël Kadendanga, à ce stade, votre commentaire au sujet des chiffres, mais aussi de la gestion de la pandémie de Covid-19 en République démocratique du Congo.
En rapport avec la gestion du Covid en République démocratique du Congo, il y a lieu de relever qu'on gère cette pandémie comme si on voulait que tous les Congolais soient contaminés. Ça, c'est de un. De deux, il y a lieu également de signaler que le Covid-19 vient ainsi vider tous les programmes de 5 chantiers révolution de la modernité qui nous ont été balancés à longueur de journée dans les télévisions. Je me rappelle le tout dernier discours du président Kabila devant l'État, sur l'état de la nation, devant le Congrès. Il avait dit que 300 hôpitaux ont été construits. Je me demande, moi qui suis ici à Kinshasa, quand vous regardez l'état dans lequel se trouve Mamaïmo, comme j'étais dernièrement à Lubumbashi, quand vous regardez l'état dans lequel se trouve l'hôpital Jasson Sengui, donc on se dit, qu'est-ce que ces gens ont fait avec l'argent? Parce que Mouzito, comme Matata, ont dit qu'ils ont construit 300 hôpitaux. C'est à ce niveau ici que l'on pouvait réaliser, que l'on pouvait voir ces hôpitaux ont-ils été construits où? Parce que même l'hôpital du cinquantenaire, quand vous posez la question, c'est une affaire privée. Bukangalonzo qui devait approvisionner Kinshasa, où on a jeté 200 millions de dollars, c'était également une affaire privée d'un Sud-Africain. Donc on se dit alors, c'est que facilement il fallait être en politique pour s'enrichir, construire de grandes universités, construire, acheter des maisons partout, Mouzito et Matata qui sont en train de donner des leçons aujourd'hui. Donc voilà que Covid vient ici nous balayer du revers de la main tout le bruit qui nous ont été produits ici, révolution de la modernité. On n'a pas de respirateur. Vous l'avez entendu dans l'introduction, Christian Bossembe a dit qu'à ce moment ici, il fallait que les certaines industries qui sont au Katanga, qui sont ici, soient transformées en fabricateurs de respirateurs. Parce qu'on est vraiment à zéro. Et je me dis aujourd'hui, on n'anticipe pas. J'ai aimé quand même que le régime actuel sortit de tout le cri que nous lançons, aussi bien dans les radios comme dans les médias sociaux. Nous avons demandé que le confinement de la journée consiste à ce qu'on puisse désinfecter tous les endroits qui ont été fréquentés par les malades, ça a été fait, mais on peut aller au-delà. Godila a la chance maintenant de réaliser, de réussir son programme de Bopeto. Les militaires, les policiers, ils peuvent maintenant non seulement désinfecter Gombe, mais également, puis ils peuvent profiter de ces 2 semaines pour vider les terrasses afin de permettre que l'eau coule facilement.
Mais et
troisièmement,
Joël Kadé,
nous avons détruit la communication du ministre Etienne. Mais malheureusement, Dr Mouyembe reprend la même communication où on vous dit que le nombre de morts, le nombre de contaminés est maintenant un peu, ça commençait à nous dire combien de guéris, notamment la ministre de l'économie nationale, Madame Akata Bandoubola, qui a été guérie, lui, elle et son époux, M. Alfred. Donc, il y a lieu de bénir Dieu par rapport à ça. Mais, posons-nous la question, quel est le protocole adopté en République démocratique du Congo? Parce que l'équipe de la riposte ne sera pas dans tous les endroits. Vous avez dit là tantôt, dans la présentation de fait, que 5 provinces ont déjà été touchées. Mais aujourd'hui, quand ça va toucher partout là, c'est le moment. Parce que, non moins que hier, on a annoncé qu'un receveur du bus 207 a été positif. Pour ceux qui continuent encore à douter.
Merci, Joël Kadé, de cette analyse. Comme nous sommes dans un débat, ce serait mieux de mettre un moment de silence pour qu'on échange un peu. Christian Bossembe, à votre niveau, vous avez remarqué comme moi que Joël Kadé, Danga, lui, est assez pessimiste quant à l'évolution et peut-être même l'issue de cette pandémie en République démocratique du Congo. Est-ce votre sentiment ou vous avez une autre analyse?
Alors, moi, j'ai deux manières de voir les choses sur la question. Je veux d'abord dire que la problématique, c'est la structure. Comme je le disais tantôt, nous n'avons pas été préparés. je ne dis pas que la France ou les autres pays étaient préparés. Non, nous, on a été encore préparés, on n'a pas été préparés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas des infrastructures sérieuses pouvant accueillir, soigner et traiter les malades. Nous n'avons pas la réponse à la question du corona, malheureusement. Est-ce que vous pouvez imaginer un pays comme le nôtre? Nous ne connaissons pas le nombre exact des non-médecins. Si vous posez cette question au ministre de la Santé, il ne saura que le dire. Donc nous ne savons pas combien de médecins il y a pour la population. Nous ne connaissons pas combien d'hôpitaux avons-nous exactement. On ne connaît pas combien de dispensaires, combien de cliniques nous avons.
Ça veut dire que de ce côté-là,
on est totalement perdu.
Christian Bossembe, je pense quand même que l'ordre de médecins a un registre où, à ce jour, on connaît officiellement les médecins recensés et les hôpitaux. J'imagine que le ministère de la Santé doit les connaître, non? Peut-être que le grand public ne le connaît pas.
Sur le papier de la Madimba. Posez la question directement, il vous le dira qu'il ne connaît pas. C'est très dangereux de vivre dans un pays comme ça, où le taux de natalité n'est pas connu, le taux de mortalité n'est pas connu. Ça veut dire, nous naissons, nous mourons, personne ne connaît. Alors, je me pose la question, si le nombre de malades se trouve beaucoup plus dans nos maisons que dans les hôpitaux, alors c'est un suicide collectif. Mais regardez ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'insouciance du peuple congolais. Vous savez, ce qui a décimé l'Europe, c'était l'ignorance. Mais ce qui va nous décimer, nous, ça va être l'insouciance. Ça veut dire, nous connaissons tous que ce virus est mortel, mais nous ne prenons pas, nous ne faisons pas attention. Le gouverneur de Kinshasa, la ville de province de Kinshasa, ont exposé les policiers. Hier, vous avez vu, les policiers n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de détergent, ils n'ont pas de toilettes là où ils sont, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de savon. Alors, pensez-vous que le coronavirus aura peur de la tenue militaire? Non, c'est de l'irresponsabilité au sommet de la République.
Mais Christian Bossembe,
Christian Mouyembe est un génie, Monsieur Mouyembe est un héros, on doit le reconnaître. Mais vous savez, même le plus beau joueur du monde, même le plus grand joueur du monde, ne peut jouer qu'avec les éléments, avec les infrastructures dans le terrain. S'il n'en a pas, il ne pourra pas. Monsieur Mouyembe a tout le temps possible. Regardez, ça fait, nous avons 12 millions d'habitants, mais jusque-là, nous n'avons que 207 cas. Si les gens ne le voient pas d'un œil positif, mais c'est un travail de longue haleine. C'est terriblement difficile pour lui de réussir ce record-là. Aujourd'hui, il y a plus de 119 personnes dont l'évolution est bonne. Il y a aujourd'hui pratiquement plus de 20 guéris. Plus de 20 décès aussi. Ça veut dire, d'une manière générale, nous ne sommes pas si mauvais que ça. Le problème, c'est le système dans lequel on se trouve. Il y a un problème. On dit qu'on n'a pas assez d'espace. Mais que font nos écoles maintenant de Lambadimba? Nos écoles maintenant sont en vacances. Alors on peut, les écoles sont déjà presque bien faites comme ça. On peut tout de suite conditionner ces écoles-là, les réquisitionner en des hôpitaux. Et puis après, à l'intérieur, on va désinfecter les écoles. Parce que là, on n'a pas besoin de construire, on n'a pas besoin de mettre des toitures. Nous avons des écoles qui sont bien créées, qui sont bien construites. Nous avons des universités qui sont bien construites. Il suffit juste de les aménager et pour recevoir les gens là-bas. Ça, c'est ce qui est fondamental. Mais même alors, regardez. Si vous regardez aujourd'hui ce que ça coûte, j'ai fait les calculs, c'est 46 millions de dollars pour 500 ambulances, dont le coût est de 25 000 à 50 000. Mais vous allez voir, dans aucun cortège de président, du président, de tous les autres présidents de l'Assemblée, du Sénat, des ministres, aucune voiture est à moins de 50 000 dollars. Ils ont tous des véhicules à plus de 100 000 dollars. Alors donc, c'est simplement pour dire qu'il y a une sorte d'injustice sociale. Nous n'avons pas priorisé l'homme. Nous n'avons pas mis l'homme au centre de notre politique. Voilà pourquoi nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de connaître. Mais je crois que le conseiller spécial en matière de la couverture médicale, M. Roger Kamba, je l'ai reçu une fois dans mon plateau, il m'a dit qu'ils sont en train d'avancer, mais la tempête va souffler cette semaine. Donc il est possible que nous puissions encore enregistrer beaucoup plus de cas cette semaine, parce que c'est la semaine de la tempête, c'est la semaine du pic. On va atteindre le pic cette semaine et peut-être la semaine prochaine. Et puis nous allons commencer maintenant à baisser. Mais en tout cas, du côté de la matière, du côté des infrastructures, il faut dire que l'État congolais n'a pas beaucoup avancé. Il faut compter à autre chose, mais vraiment pas à cette gouvernance.
Merci Christian Bossembe. Alain Samuel Tshibata, au Katanga, pour le moment, officiellement, il n'a pas été annoncé de cas de COVID-19. Mais vous, en tant que journaliste, avez-vous des enquêtes contraires par rapport à cela. Si vous confirmez qu'il n'y a toujours aucun cas, comment quand même s'organise le Haut-Katanga pour rester vierge en Covid, sinon se défendre efficacement si jamais il y a des cas?
Merci à confrère Dona Madimba. Je salue les interventions de mes co-débatteurs. Je pense qu'ils sont en train de mettre le point de vue qui démontre à combien nous sommes soucieux de notre pays. Mais avant de répondre à votre question, la gestion de la maladie coronavirus en RDC en général, elle est calamiteuse. Il est vrai que le monde entier est en émoi, mais chez nous, la chose semble être prise avec légèreté. Et toutes les stratégies prises pour gérer cette pandémie ne font qu'échouer à tous les niveaux.
Ah ben Alain Samuel Tshibata, oui. Quand on regarde quand même les chiffres, est-ce que nous sommes pas peut-être trop durs avec nous-mêmes, trop sévères avec nous-mêmes, alors qu'on voit certains pays qui plongent plus que nous, hein. On voit par exemple au Brésil, sauf si les choses ont changé, jusqu'aux dernières nouvelles, même l'État n'avait pas encore décrété des mesures sévères, les populations s'organisent elles-mêmes, dans les pays limitrophes ici, ils ont plus de cas que nous pour le moment. Est-ce qu'on n'est pas un peu alarmiste nous-mêmes pour le moment?
Je ne suis pas pessimiste personnellement, mais je suis en train d'analyser la chose telle que je vois.
Allez-y.
Si aujourd'hui nous disons que nous sommes durs avec nous-mêmes, c'est trop dur parce que jusque-là, je me dis, on n'a pas le matériel qui peut bien détecter cette maladie. Par exemple, ici, chez Lubumbashi, on ne sait pas voir qui entre, qui sort. Imaginez de Namadimba. Ici, à Lubumbashi, les autorités ont parlé de mesures de prévention de la maladie à coronavirus. On nous a demandé dans un taxi-bus de transporter moins de 20 personnes, 10 personnes. Mais vous allez vous rendre compte que chaque mois, j'ai pris un taxi-bus à bord duquel il y a 22 personnes. Et qu'est-ce que... J'ai posé la question à un chauffeur, il m'a dit, écoutez, les policiers sont dans ma poche. Arrivé là, il y avait la PCR, les policiers ont mis la main dans sa poche, il a sorti l'argent et les policiers l'ont laissé partir. Vous voyez que à ce niveau-là, nous sommes d'abord congolais qui ne sommes pas conscients de ce que nous faisons. Alors, toutes les mesures prises sont quasiment défaillantes. Premièrement, confinement, un grand échec. Il n'y a pas de constance. Les dirigeants du pays eux-mêmes ne sont pas constants. Il y a des contradictions entre les autorités elles-mêmes. Tantôt c'est le président qui fait les déclarations, tantôt c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa qui contredit. Vraiment, il n'y a pas de l'harmonie. Les mesures de prévention ne sont presque pas respectées à Kinshasa, comme ici chez Lubumbashi, je venais d'en parler. Alors, les traitements symptomatiques, il n'y a pas vraiment une mobilisation dans le déblocage des fonds. Les médecins ne sont pas outillés par leur hiérarchie. Il n'y a pas de recyclage, il n'y a pas de formation. Ce qui fait que dès qu'on amène un malade, ce sont les infirmiers et les médecins qui sont les premiers à fuir. Ils fuient parce que ils sont en train de craindre une éventuelle contamination parce qu'ils ne sont pas bien outillés, ils n'ont pas de l'expérience.
Alain Samuel Tshibata, oui. De manière un peu structurée, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les quelques mesures, on ne peut pas toutes les citer, sur le respect des quelques mesures les plus urgentes, les plus basiques dans le Haut-Katanga et particulièrement le Lubumbashi? Qu'en est-il du lavage des mains? Est-ce qu'il y a des dispositifs, par exemple pour le lavage des mains, dans certains endroits fréquentés, dans les maisons? Y a-t-il des infrastructures, même minimum, qui sont déjà mises en disposition au cas où il y aurait des cas? Y a-t-il par exemple des thermoflashs, des choses comme ça?
Papa, sincèrement, rien ne semble évoluer, sauf la mesure de lavement de main. Je vois dans certaines institutions, les hôpitaux, ainsi que les alimentations, où on a placé ces dispositifs pour que les gens se lavent régulièrement les mains. Je pense que là, jusque-là, ça marche. Mais concernant les infrastructures, j'apprends qu'à Kasumbalé, on est en train d'envisager une probable construction d'un centre d'accueil à Lubumbashi également, mais c'est insuffisant pour une grande ville comme la ville de Lubumbashi.
Comment pouvez-vous par exemple expliquer que officiellement, on ne sait pas si il y a d'autres déclarations, mais officiellement, il n'y a pour le moment aucun cas déclaré connu dans le Haut-Katanga et à Lubumbashi. Y a-t-il un miracle? Y a-t-il une explication?
Ben écoutez, s'il n'y a pas de cas qui ne sont pas connus, c'est parce que on n'a pas eu à faire. Si on se mettait n'est-ce pas, à tester toute la population louchoise, vous me direz qu'il n'y a pas de cas de COVID-19. Je ne confirme rien, mais au Sénégal, il n'y a aucun cas. Nous félicitons aussi les gouverneurs qui s'impliquent, parce que nous voyons que dans nos frontières, il y a le renforcement de mesures de sécurité par rapport à ceux qui entrent et ceux qui sortent. Mm-hmm. Et aussi à l'aéroport, nous apprenons également. Mais jusque-là...
Vous souhaiterez un peu plus de contrôle.
Exactement.
Merci. Exactement. Merci Alain Samuel Tshibata. Nous rejoignons notre deuxième thème de ce soir. Vital Kamerhe, depuis mercredi à la prison centrale de Makala à Kinshasa, le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire après avoir été entendu à l'office du procureur général près la cour d'appel de Matete dans le cadre des enquêtes sur l'exécution du programme d'urgence du chef d'État. Vital Kamerhe pourrait être condamné à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Son tête-à-tête mercredi devant la justice, rapporté ici par Jeff Ngoy dans la voix de Alain Hirung.
C'est vers 13h que Vital Kamerhe fait son entrée au parquet. L'avocat général Sylvain Kimwala, qui instruit le dossier, le reçoit pour le verbaliser. L'audition a pris fin vers 17h40. Mais le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi n'est pas autorisé à quitter le parquet. Il lui est signifié son arrestation provisoire. Selon les sources du parquet, un directeur de cabinet est un personnel administratif, donc un justiciable comme tout le monde. Il ne jouit donc pas de privilèges liés à sa fonction. Vital Kamerhe pourrait être jugé soit par un tribunal de grande instance, soit par la cour d'appel. Il encourt 20 ans de prison s'il est définitivement reconnu coupable lors d'un éventuel procès.
Joël Ndanga, éditeur du journal Impact News, hebdomadaire paraissant à Kinshasa, par rapport à cette actualité, doit-on se satisfaire qu'une personne qui a été longuement citée dans les allégations de détournement soit finalement face à face à la justice et pour le moment retenue à la prison centrale de Makala?
Bon, Vital Kamerhe est un homme parmi ceux que je connais des très intelligents dans ce pays. Mais moi, je ne comprends pas comment il n'a pas vu ça venir. Ça a commencé d'abord avec l'affaire des 15 millions de dollars. Le chef de l'État l'a défendu dans tous les médias du monde jusqu'à déclarer qu'il s'est agi d'une rétro-commission qui soit une COP, comme il a voulu le dire en Lingala. On a commencé à le soupçonner d'avoir trempé dans le détournement de fonds alloués pour le programme d'urgence de 100 jours. L'homme n'a ni démissionné alors que dans ce pays, nous avons vu quelqu'un comme Bochab, qui a été cité dans l'affaire 32 millions de dollars. Bochab s'est mis à l'écart pour permettre à la justice de faire son travail et la justice l'a finalement blanchi. Bon, s'il savait qu'il est innocent, pourquoi ne pas se mettre à l'écart, mais rester en fonction jusqu'à ce qu'on l'a invité. Pour la première fois, il y a eu des erreurs que je puis imaginer être des ballons d'essai pour voir la réaction de la population, mais hier, quand il a répondu, sauf qu'il pensait que nous sommes encore dans cet état-là.
Joël Kadé Ndanga, oui. Est-ce que pour le moment il y a la présomption d'innocence? Vital Kamerhe n'a pas encore été condamné définitivement par la justice. Les preuves ont toujours fait défaut jusqu'ici. Pensez-vous que cette fois-ci, la justice congolaise, qui l'a retenu depuis mercredi soir à la prison centrale de Makala, a les preuves irréfutables qu'il est mêlé ou coupable dans ce cas-ci?
Non, je connais la rigueur du procureur général près la cour de cassation, M. Mumba. Je connais la rigueur du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa, Matete, M. Kisula. Et jouissant de cette liberté qu'ils ont depuis un temps, de travailler en toute indépendance pour faire prévaloir la loi et la constitution, je crois. Parce que les preuves, il n'y a pas un seul magistrat qui peut se permettre, voyant la grandeur de Kamerhe, voyant la noblesse de Kamerhe, voyant sa position, qui peut se permettre d'inculper Vital Kamerhe et de le déférer en prison. Je ne le vois pas, sans preuve irréfutable, se permettre de poser pareil acte. de peur de s'exposer à des représailles aussi bien de lui-même comme de membres du gouvernement, les membres de son parti politique.
Joël Kadendanga, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une mascarade supplémentaire, vu que l'homme avait été décrié plusieurs fois? On veut juste soulager la conscience de la population et puis le libérer probablement dans 2, 3, 4, 5 jours maximum.
Non, je crois que si les choses sont faites de cette façon-là, je suis convaincu que Tshisekedi va jouer sa crédibilité. Va se brûler si c'est une mascarade, mais je ne le pense pas, parce que je ne le crois pas non plus. Bon, espérons voir, mais moi j'ai pleinement confiance en notre justice depuis un temps. En tout cas, j'ai confiance en ce magistrat. Tout le temps ici, ils étaient délaissés, il y avait des injonctions qui venaient de la prison à la République, qui venaient de la mer, qui venaient de la DEMIAP. Mais depuis un temps, ces injonctions étant cassées, j'ai confiance que l'affaire pourra connaître vraiment son issue, que la population attend dans l'engagement du président Félix de lutter contre l'impunité, de lutter contre les antivaleurs qui ont caractérisé ce pays ici.
Merci Joël Kadendanga. Christian Bossembe, promoteur de la chaîne Congo Buzz Télévision, également responsable du magazine CongoBuzz.net. Comment comprendre, il n'est pas encore condamné, hein, Vital Kamerhe, mais puisque les gens semblent enthousiastes, ils l'ont presque déjà gardé 20 ans à la prison centrale de Makala dans leur pensée, comment comprendre que Vital Kamerhe, s'il est coupable, se soit permis de tels actes alors qu'il était le plus proche collaborateur du chef de l'État?
Alors, merci beaucoup à vous. Je commencerai par... Le premier adage, c'est celui d'Alain Boileau. Il dit « Toutes les apparences ne peuvent pas être contre une personne ». Ça, c'est un adage que je retiens d'Alain Boileau. Mais si nous avançons un peu plus, vous allez vous rendre compte que dans une république, lorsque les hommes font peur à la justice, au lieu que la justice fasse peur aux hommes, nous sommes là dans une anarchie. Monsieur Vital Kamerhe est un citoyen congolais, ne jouissant ni de privilèges de juridiction, ni de privilèges de poursuite. Alors, aussi, dans le droit, il y a un principe. On ne donne pas trop de préalables à la justice. Lorsque la justice vous invite, ou lorsque la justice lance contre vous un mandat d'amener ou un mandat de comparution, la logique veut que nous puissions nous y rendre. En nous rendant, nous faisons preuve que nous sommes de bons citoyens, nous n'avons aucun problème avec la justice, nous sommes prêts à collaborer. Mais ce qui s'est passé avec M. Kamerhe, c'est tout autre. Il y a eu une sorte de menace d'intimidation. Je ne comprends pas le comportement de l'UNC. Je ne sais pas faire la différence entre l'UNC et le FCC. Souvenez-vous, lorsque la justice a interpellé M. Yuma, un haut cadre du PPRD a dit qu'ils allaient paralyser le pays. Je ne conçois pas, lorsqu'on invite M. Kamerhe, pas qu'on l'arrête, mais on l'invite, l'UNC dit que non, si vous continuez, nous aussi nous allons paralyser, nous aussi nous allons dévoiler, nous aussi nous allons faire cela, nous aussi nous allons faire autre chose. Alors, je comprends la population qui pense que c'est un scénario. Oui, c'est très beau pour être vrai. Je dois vous rappeler ici, Dona Madimba, depuis l'histoire de ce pays, depuis le 1960, aucun directeur de cabinet d'un président n'a déjà fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Alors, aucun. Quand c'était arrivé, c'était l'un des collaborateurs du premier président Kasavubu qui avait laissé la justice mettre la main sur un de ses conseillers, mais alors pas un directeur de cabinet. Mais ici, nous avons vu comment la justice n'a pas eu de problème. La justice a invité pour la première fois, pour la deuxième fois, le directeur de cabinet, pas le moindre, et on le place sous mandat d'arrêt. Je voudrais dire à tout le monde que être placé sous mandat d'arrêt, cela ne veut pas dire que votre casier judiciaire est entaché. Monsieur Vital Kamerhe n'est pas prévenu, comme j'entends les gens dire. Il n'est pas prévenu. Monsieur est inculpé. Ça veut dire que nous sommes dans une phase préjuridictionnelle. Il n'a pas encore vu le juge et son sort n'a pas encore été scellé. En ce moment, le ministère public qui, lui, étudie le dossier, peut décider de l'inopportunité de poursuite si M. Kamerhe se comporte bien. Donc le comportement de M. Kamerhe va déterminer sa longévité en prison. Mais il faut rappeler une chose, et moi je voudrais bien que les gens le retiennent, c'est Sénèque. Sénèque dit, il n'y a point de cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre de lois et avec les couleurs de la justice. Donc il ne faudrait pas qu'on ait une justice pour les faibles, une justice pour les forts. Et si vous lisez le livre Esprit de loi de Montesquieu, il dit il ne faudrait pas que les lois soient comme des toiles d'araignées qui n'arrêtent que les insectes et qui sont brisées par les oiseaux. Ça veut dire que lorsque le président a parlé d'un état de droit, un état de droit suppose la primauté de loi sur tout le monde. Donc, maintenant, nous allons devoir laisser la justice faire son travail. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est le comportement anti-républicain de l'UNC. Je dois vous rappeler ici le prescrit des articles 153, si je ne me trompe pas. L'article stipule ceci. Les membres du gouvernement ne peuvent pas interférer dans une décision judiciaire ou dans un processus de justice. Il n'est pas normal que je voie des ministres de l'UNC parler ou s'opposer sur cette décision-là du MAP. Je crois que le Premier ministre devrait les révoquer pour donner l'exemplarité. Et je suis encore une fois sidéré d'apprendre que les membres de l'UNC vont aller rencontrer le président de la République pour discuter sur l'arrestation, pardon, l'interpellation de M. Kamere. Ils veulent induire le président en erreur parce que nous sommes dans un principe de séparation de pouvoir. Le président de la République n'a rien à voir avec cette procédure. Il ne peut même pas dire un seul mot. Parce que s'il dit un seul mot, il va violer le principe sacro-saint de démocratie et la séparation de pouvoir. Alors, ce que moi je voudrais, que cela ne s'arrête pas, M. Kamere. Que cela s'étende un peu. Dans ce pays, nous avons le patrimoine de l'État qui a été spolié par l'ancien régime. Dans ce pays, nous avons jusqu'à aujourd'hui les bateaux de l'État, les appareils de l'État, les maisons de l'État, l'argent de l'État dans les poches des gens. Nous avons des individus plus riches que l'État. Nous avons des individus qui se tapent 2, 3, 4 fermes alors que l'État n'en a pas même une seule. Alors que ces gens-là, avant d'être ce qu'ils sont, ils étaient rien, quoi. Mais aujourd'hui, ils se sont enrichis et le pouvoir est appauvri. Donc, que cette leçon...
Merci, Christian Bossembe.
Que nous puissions donner à une belle image pour notre justice. L'Israël, la Banque mondiale, le FMI, la communauté internationale, tout le monde attend voir comment ça va se passer.
Merci,
est-ce
Christian.
Que le président va décider ou le président va interférer.
Merci, Christian Bossembe. Alain Samuel Tshibata, directeur général de Hope Channel Radio, émettant de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Les sujets de ce soir étaient tous passionnants et les gens s'expriment, notamment parmi les réactions qu'on a, on peut voir ça et là. Les gens se semblent satisfaits de l'évolution de cette affaire de Vital Kamerhe tout en gardant la prévention, la prétention d'innocence. Avez-vous l'impression que la justice jusqu'ici a bien procédé ou pensez-vous qu'il y a acharnement quelque part?
Merci beaucoup, confrères. Je pense que je vais aborder les sujets autrement que les confrères. Et je trouve dingue la procédure qui a amené Vital Kamerhe jusqu'à Makala. Et moi, j'ai peur de l'acharnement parce que je voudrais faire voir aux amis qui est Vital Kamerhe. Un leader communautaire, un leader politique, allié du cash, notable national et international même, et directeur de cabinet du président de la République dans l'entour du Congo. Toutes ces valeurs pouvaient ne fût que être respectées. Pendant que le monde entier regarde un coronavirus pour lequel tout le monde dort avec peur au ventre, vous nous présentez cette situation avec la fameuse situation de Vital Kamerhe. Et c'est pas vraiment le moment. Moi, je me dis que c'est pas le moment, alors qu'on est en train d'envisager une probable libération des prisonniers, car on sait que la prison risquerait de devenir un lieu de propagation de la maladie. Mais notre gouvernement amène carrément Vital Kamerhe en prison. C'est pour les tuer ou pour les garder vivants. En tout cas, je suis sceptique. Je vois très mal la procédure. Et si cette mesure vient du haut sommet de l'État, c'est pour des raisons nobles et connues de tous. Je dois féliciter le président de la République, car c'est un signal fort. L'État des droits, bien sûr, oui, c'est du jamais vu en RDC, il n'a jamais entendu. La lutte contre la corruption, oui, c'est bien bon. Le président cherche aussi à obtenir la crédibilité face à la communauté nationale, aussi internationale. C'est bien bon. Mais attention.
Merci. Jean-Noël
Mokondo,
Kéline Kouté, Axel Goncho m'ont aidé à préparer cette émission. Donna Madimba, c'est moi à la présentation. Tribune de presse, c'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.